Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
18h à Bamako, merci d'écouter Studio Tamani. L'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU à New York a été relevé de ses fonctions. La décision a été prise hier lors du Conseil des ministres. Elle fait suite à la suspension du droit de vote du Mali aux Nations Unies. De l'avis de certains observateurs, l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU est en première ligne pour être sanctionné. Selon eux, d'autres têtes risquent de tomber. Processus de paix, la construction des sites de cantonnement a commencé depuis quelques semaines, mais selon des responsables des mouvements armés, mais ce début de construction ne signifie pas l'imminence des cantonnements. 50 000 Maliens sont toujours en attente de départ au Niger pour retourner au pays. 40 000 sont déjà sur le territoire national. Ces chiffres ont été communiqués ce matin lors de la commission tripartite Mali-Niger-ACR organisée à Bamako. Mesdames et messieurs, les détails de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. Elle avait été annoncée, les sanctions contre les fonctionnaires coupables aux yeux du chef du gouvernement d'avoir contribué à la suspension du droit de vote du Mali aux Nations Unies sont tombées. Un décret mettant fin aux fonctions de Sékou Kassé, ambassadeur du Mali auprès de l'ONU à New York, a été pris hier mercredi lors du Conseil des ministres. Famou Sassi Dibé.
Les cinq lignes du compte-rendu du Conseil des ministres annonçant le limogeage de l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU sonnent comme la confirmation des propos du chef du gouvernement. Mardi dernier, Modibo Keïta avait promis de tirer tous les enseignements de la situation. Ce qui est arrivé est injustifiable pour un gouvernement, mais je l'assume, avait déclaré le Premier ministre qui se prononçait sur le retard du Mali dans le paiement de 2 ans de cotisation aux Nations Unies. Retard qui a donc valu au Mali la suspension de son droit de vote. Le gouvernement a depuis assuré qu'un premier versement de plus de 104 millions de francs CFA a été effectué en règlement des arriérés de contribution 2015 dus par le Mali. Pour l'heure, seul Sékou Kassé fait les frais de ce que le Premier ministre a qualifié de laxisme de certains fonctionnaires maliens. Pour autant, d'autres se sentent déjà dans les collimateurs de la primature. C'est la raison pour laquelle les travailleurs du Trésor prennent les devants à travers leurs syndicats. Selon Agissa Zouladieni Maïga, l'un de ses représentants, le Trésor a saisi par lettre officielle la direction du budget pour qu'elle transmette les numéros de compte corrects destinés au paiement. Cela n'a pas été fait, constate le secrétaire général du syndicat du Trésor public. Le 27 août 2015, ajoute-t-il, le Trésor a dressé une nouvelle correspondance à l'ordonnateur pour l'alerter une nouvelle fois.
De l'avis de certains observateurs, l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU est en première ligne pour recevoir la sanction. Selon eux, d'autres têtes risquent de tomber. Souleymane Drabo est éditorialiste au quotidien national L'Essor. Il a été joint au téléphone par Famou Sassi Dibé.
Je crois que le fait que le Premier ministre lui-même ait jugé bon de prendre la parole pour présenter ses excuses et expliquer les raisons de la suspension du droit de vote du Mali à l'ONU montrait que le dossier était d'une extrême gravité. L'ambassadeur se trouve en première ligne dans cette affaire parce qu'il est en poste à New York, il est en contact avec l'administration onusienne. Je pense que les investigations vont continuer et qu'au bout des investigations, on va situer toutes les responsabilités dans cette affaire qui a défrayé la chronique. Plus que l'opposition, c'était l'opinion même qui avait été révoltée parce que c'est une mesure qui ressemble à une humiliation quand même. Pour un État comme le Mali qui a mis la défense de son image en première ligne dans son combat après les épisodes de 2012 et 2013, ça fait mal de voir cela. Donc je pense que la satisfaction que des sanctions soient prises et que des solutions soient trouvées à ce problème, la satisfaction va être générale à mon avis.
Retrouvez ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani pour vos réactions et commentaires.
Tamani.
Le directeur général de l'hôpital Gabriel Touré quitte ses fonctions. Ce départ du professeur Kassoum Mamourou Sanogo pourrait faire suite aux différents mouvements de grogne des travailleurs du CHU. Son poste, tout comme celui de ses homologues des autres CHU de Kati et du Point G, est ouvert à candidature. Je vous l'annonçais dans le titre, à peu près 40 000 Maliens venant du Niger seraient déjà revenus sur le territoire national, mais 50 000 sont toujours en attente de départ au Niger pour retourner au pays. La cinquième réunion de la commission tripartite Mali-Niger-HCR s'est tenue ce matin à l'hôtel Radisson de Bamako. L'occasion de faire le point sur la situation actuelle des réfugiés maliens au Niger. Abdoulaye Sega Traoré, le coordinateur national chargé de rapatriement au ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, il est au micro de Fatoumata Togola.
Depuis 2012, aujourd'hui nous avons enregistré à peu près 41 000 réfugiés maliens qui sont rentrés au pays. Mais ils ne sont pas tous du Niger. Vous dire exactement ce qui se trouve au Niger aujourd'hui, je crois qu'on l'évalue à peu près plus de 50 000. 4 sites ont été aménagés qui sont à la porte d'entrée entre le Niger et le Burkina pour faciliter. Parce que ces compatriotes, quand ils rentrent d'abord, il faut les accueillir quelque part, leur donner une assurance, assurer d'abord leur sécurité et puis veiller un peu sur leur santé. Dans ces sites-là, des points d'eau ont été aménagés, et des centres de santé ont été réhabilités pour que quand ils viennent d'abord, qu'on puisse les observer un peu et puis les accompagner avant qu'ils n'atteignent leur village. Bon, puisque nos parents là qui reviennent souvent, c'est des éleveurs par excellence. Donc le ministère aussi, bien aussi vrai que les partenaires qui nous accompagnent, ont eu à faire des distributions d'aliments bétail pour accompagner les petits troupeaux qui les accompagnent. Donc leur donner un peu de satisfaction par rapport à ça.
La nomination de gouverneur des nouvelles régions de Taoudéni et Ménaka suscite des réactions chez de nombreux observateurs. S'ils sont unanimes que celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'accord d'Alger et d'une loi de février 2012, certains analystes s'interrogent sur l'utilité de ces nominations. Selon eux, la priorité est d'assurer la sécurité dans ces localités et le retour effectif de toute l'administration dans les villes du Nord. Daba Diawara est ancien ministre chargé des réformes institutionnelles au Mali. Il était l'invité de notre émission. C'est un grand dialogue du mardi.
La question que je me pose, le contexte politique, militaire et sécuritaire ayant totalement changé, je me demande à quoi ça sert de nommer aujourd'hui des gouverneurs à Taoudéni et à Ménaka. Est-ce qu'ils vont s'installer à Ménaka et à Taoudéni? Et avec quelle administration ils vont gérer ces parties du territoire? Au moment où le gouverneur de Kidal est obligé de rester à Grand, au moment où tout le monde s'accorde à dire que l'administration est totalement absente du nord, qui est devenu un danger pour l'ensemble de la souveraineté. Parce que le gouvernement malien ne contrôle plus le nord de son territoire. Quand tout le monde s'accorde sur ça, à quoi ça sert de nommer un gouverneur à Taoudéni, de nommer un gouverneur à Ménaka, sachant bien qu'ils n'ont ni administration, et peut-être qu'ils ne pourront même pas aller s'installer ni à Taoudéni, ni à Ménaka.
La construction des sites de cantonnement a commencé depuis quelques semaines, mais selon des responsables des mouvements armés, ce début de construction ne signifie pas l'imminence des cantonnements. Selon eux, il faut de la patience avant de voir les combattants démobilisés, car, explique-t-il, le processus est long et complexe. Firoun Maïga est un des responsables de la plateforme des mouvements armés. Il était l'invité de notre émission Grand Dialogue d'hier.
Il y a des dispositions techniques qu'on ne peut pas compresser, autre chose. La durée de construction d'un site qui doit recevoir 750 maximum de combattants dans un espace qui se retrouve à 200 ou 300 km d'une ville urbaine, en termes de logistique, en termes de ressources humaines pour pouvoir le faire, prend un temps. Mais la mesure, c'est à peu près 3 à 4 mois, si réellement les conditions techniques sont réunies pour finaliser le site et en ce moment le rendre plus viable pour que les éléments puissent arriver. Alors, il y a 24 sites. Sur les 24 sites, il n'y a que 2 sites qui ont commencé. Le troisième, je ne sais pas si ça a démarré hier ou aujourd'hui, il y a Fafa, il y a au niveau de Tombouctou, Likraka. Mais c'est au stade des fondations. Donc quand les Maliens entendent que les sites sont en construction, on a l'impression que demain on va rentrer là-dedans. Mais non, ça va prendre du temps, le temps de construire ces sites. Aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère de la Défense pour rendre cela plus opérationnel et amener les combattants à se préparer pour le cantonnement autour des sites. Si on veut que ça aille vite, il faut que l'AMUNISMA crée les conditions idoines en termes de logistique, en termes de ressources pour accélérer.
Sur un tout autre sujet, le comité syndical de l'ORTM observe depuis hier une grève de 72 heures. Ce mouvement fait suite à la non-satisfaction d'un certain nombre de revendications relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. Selon le secrétaire général du comité, la grève a été largement suivie sur l'ensemble du territoire. Le responsable syndical regrette l'absence de dialogue social avec le gouvernement et n'exclut pas un durcissement de la grève. Abdourahmane Infatouré est joint par Omar Ouégalo.
La grève de 72 heures que nous avions commencé hier a été entièrement suivie partout au Mali, de Kayes jusqu'à Kidal. Nous observons tout juste un service minimum et toutes les stations régionales et puis les relais sont en synchronisation avec l'ORTM. Les négociations ont été déjà faites le 21, le 22, le 25 et le 26. Nous avons négocié, nous n'avons pas pu nous comprendre. C'est ce qui nous a conduit à la grève. Et depuis que nous sommes en grève, nous n'avons été appelés nulle part. Le gouvernement ne nous a pas appelés pour tenter d'interrompre la grève avec des propositions concrètes.
Après tout ça, si vous n'obtenez pas une satisfaction, que comptez-vous faire?
La troisième fois, nous allons poser un acte, un préavis de grève indéterminé jusqu'à ce qu'on ait satisfaction.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Actualité régionale, un véhicule des forces maliennes a été dérobé ce matin par des individus armés à Tombouctou. Le véhicule partait approvisionner en nourriture le checkpoint d'Abaradjou lors de l'attaque, et militaire a été tué. Le projet de reconstruction et de relance économique a réuni hier les autorités de Borém. Ses responsables ont présenté le bilan de leurs activités. Plus de 5 millions de francs CFA ont été investis dans les domaines scolaires, sanitaires et hydrauliques. Mieux orienter et améliorer les activités de l'ONG Médecins sans frontières, c'est l'objectif d'un mini-débat associatif de terrain organisé ce matin par MSF à Koutchala. Plus d'une centaine de partenaires et de travailleurs de l'organisation ont pris part à cette rencontre. Une mission de la gouvernance financière de la Cour suprême s'est rendue ce matin à Koulikoro. Cette visite vise à informer les acteurs régionaux sur son rôle dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. La mission est conduite par le président de la Cour suprême. Dans un instant, ce sera le Grand Dialogue. Bonsoir, Sédou Fomba.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous allez parler de quel sujet?
C'est tout. Kanté, dans le Grand Dialogue de ce jeudi, nous allons revenir sur un enlèvement, celui de la Suissesse Béatrice Tocli. Eh bien, pourquoi? Parce que l'enlèvement qui s'est déroulé à Tombouctou dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier n'avait jusque-là pas été revendiqué. Ces choses faites depuis mardi, à en croire une vidéo remise à l'agence de presse privée mauritanienne Allah Akbar, c'est l'émirat du Sahara, une branche d'Al-Qaïda au Maghreb qui serait derrière l'acte terroriste que demandent les ravisseurs de la religieuse. Doit-on s'attendre au versement d'une rançon? Que compte faire la Suisse pour obtenir la libération de la dame? Quelle stratégie faut-il pour faire face à la problématique de l'insécurité que vient poser une fois de plus cet enlèvement? C'est autour de ces questions que va se dérouler le grand dialogue de ce soir avec trois invités qui sont Dr Mamadou Guissé, enseignant, donc professeur en droit privé, chercheur, professeur André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS à Paris, et Yeya Tandina, journaliste.
Merci et très bon débat. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour le magazine.